bravo, bravo, je remercie les musiciens, magnifique. Ce beau chant que Raphaël et Violette chantaient tout le temps lors des réunions depuis 1968. C'est le chant. Il faut aussi peu de choses. Gloire à Dieu, ça va bien?
Oui.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, le lundi 26, Michou et moi, nous sommes partis à Cahors et nous avons fait, j'ai passé un scanner pour voir s'il y avait une récidive du cancer. Eh bien, il n'y a pas de récidive du cancer. Gloire à Dieu. Alors, rendez-vous est pris pour dans 6 mois pour un autre scanner. C'est comme ça, c'est le protocole, hein, quand vous avez fait de la radiothérapie, de la chimiothérapie, des opérations. Eh bien, il faut tous les 3 mois faire des examens, puis après c'est tous les 6 mois, et puis voilà. Donc, mais à chaque fois, hein, on a beau avoir la foi, à chaque fois, 3 jours avant, vous avez la boule au ventre, vous dites, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait rien. Et voilà, quand on voit le résultat, ça fait plaisir, hein, chérie. Voilà, bon, ben, les prophéties qui disaient que je voulais mourir septembre 2015 sont toujours pas réalisés.
Il a pris du retard.
Hein?
Il a pris du retard.
Oui, voilà, oui. C'est sur mon Dieu qui s'est trompé, oui. Oh, c'est difficile, hein? Non, non, tu vas pas y arriver. Là. C'est pas grave, ton fils. Merci, Stéphane. Tu veux absolument y arriver, hein? Il veut, mais alors, je vous explique ce qui se passe. Il y a une bougie. Et il y a Stéphane, il essaie d'allumer la bougie. Voilà, merci Stéphane. Pour ceux qui ne regardent pas, là, qui ne peuvent pas voir la vidéo. Bien, je vais revenir sur ce que je vous enseignais dimanche passé, parce que j'ai vu que ça a plu beaucoup. Ça a intéressé beaucoup de monde, et dans la communauté, on en a parlé. Et c'était, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des autres prédications, mais celle-là a particulièrement plu. Alors je vais revenir sur ce que je disais dimanche passé au sujet du besoin que nous avons de juger. Alors si vous n'avez pas écouté cette prédication de dimanche passé, arrêtez celle-là, allez écouter l'autre d'abord, parce que c'est la suite. Alors on va lire Jean chapitre 8, pour commencer. Ça c'est une vieille Bible que je me traîne depuis les années, depuis 1970. Et puis, je l'aime bien. C'est pas... À chaque fois qu'il sort une Bible, je l'achète, mais je reviens toujours à ma vieille Bible. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce que j'ai dit à ce sujet, c'est des religieux qui ont trouvé une femme qui faisait l'adultère toute seule. Hein, parce que, en réalité, ils n'ont pas réussi à choper le bonhomme, ou le bonhomme était trop musclé, ils ne se sont pas attaqués à lui, mais ils se sont attaqués à la femme. Ah, la femme, c'est tellement plus facile, n'est-ce pas, taper sur une femme, mon Dieu. Et la plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Et il voulait éprouver Jésus devant tout le monde, publiquement, pour pouvoir l'accuser. Ah, vous voyez, là, au milieu du temple, il est contre la loi de Moïse, il ne veut pas lapider cette femme, vous voyez, il est au nom de l'amour, n'est-ce pas, il ne veut pas. Voilà. Que dis-tu? Il disait ça pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, évidemment, le lapider aussi. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Et il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Seigneur Jésus, accorde ta bénédiction à ce que je vais dire et que cela soit un sujet qui donne de la force à chacun et chacune. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Celui d'entre vous qui est sans péché ou sans déviation ou sans faute, qu'il jette le premier une pierre sur elle. Cette parole ne juge personne. Cette parole ne juge personne. Elle renvoie chacun à sa propre responsabilité, à sa propre réponse. Chacun doit donner sa propre réponse. Responsabilité et réponse sont deux mots de la même famille, étymologiquement. En fait, en disant cela à ces scribes et ces pharisiens religieux, Jésus leur donnait de l'importance. Il leur montrait qu'il les prenait très au sérieux. En fait, qu'est-ce qu'il leur dit, si on veut paraphraser ? Il leur dit : vous n'êtes pas sans pouvoir, vous pouvez faire ce que vous dites. Vous êtes saint. Et même si vous avez péché, vous avez offert le sacrifice voulu par la loi. Donc, vous êtes sans péché. Si vous avez la foi que les sacrifices que vous avez offerts à Dieu, selon la loi de Dieu, selon la loi de Moïse, alors vous avez le pouvoir de tuer cette femme qui, elle, n'a pas eu le temps d'offrir le sacrifice pour son péché parce que vous l'avez pris en flagrant délit d'adultère. Vous voyez donc, Dieu n'est pas pris en otage, la décision vous revient. En fait, la décision est horizontale maintenant. C'est-à-dire que votre décision personnelle va tenir compte de la relation que vous avez entre vous. Celui qui va acheter la première pierre va montrer héroïquement qu'il a la foi dans le pardon que Dieu lui a accordé à lui. Parce qu'il a offert le sang d'un animal innocent. Un animal est mort à sa place pour qu'il puisse être purifié et être sans péché. Il va montrer qu'il a vraiment la foi. En tout cas, continue Jésus, je paraphrase. Moi, je ne jugerai pas celui qui jettera la première pierre. Et puis, je ne veux même pas savoir qui va jeter la première pierre. Je me baisse et je regarde la poussière et j'écris des trucs dans la poussière. Je ne regarde pas. Et Jésus baisse la tête comme s'il ne se préoccupait pas du tout de l'effet de la parole qu'il venait de prononcer. Jésus fait une chose formidable. Il a désamorcé l'esprit de jugement dont il lui-même était victime. C'était Jésus qui devait être la grosse victime, je n'étais pas cette pauvre femme. C'était Jésus qui était visé, c'était Jésus qui devait être jugé là. Parce que souvenez-vous que toute cette histoire montée par les religieux avait un but, juger et condamner Jésus pour outrage à la sainte loi de Moïse. Et là, Jésus désamorce leur esprit de jugement. Il permet à chacun, à ses adversaires, à la femme et à lui-même, de se conforter à sa propre vérité. Et les religieux sortent, un à un, à commencer par les plus vieux, parce que les plus vieux, c'est ceux qui ont eu plus de temps de péché, donc c'est ceux qui ont plus de péché. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Hein, non, je veux pas vous. Mais c'est comme ça. Plus ils deviennent vieux, plus ils deviennent. Ah oui. Les vieux, ils commencent à sortir. Chacun sort de là. Ça signifie quoi? Ça signifie que chacun sort de cet enfer qu'est l'esprit de jugement. La femme va sortir du cercle des accusateurs, au milieu duquel elle se trouvait enfermée. Jésus se tient seul devant ce qu'il attend. Seul, comme au jardin de Gethsémané, avec ses disciples qui dorment. Et toute cette histoire-là n'est pas éloignée de l'histoire du pardon. Ce qui me frappe dans l'histoire de Jésus, c'est justement l'absence de tout esprit de jugement. Et c'est Luc qui en parle le mieux. On va lire Luc 23, 34. Voilà ce qu'il dit. Père, il est à la croix, hein, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un homme fort. Voilà un humain parfait. Vous me direz, oui, mais Jésus était Dieu. Oui, mais il était Dieu et humain. Sur la croix, il souffrait comme un humain. Jésus savait qu'aucun humain ne connaît la valeur ultime de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez comment nous ont jugé les dissidents. Ne venez pas me dire, ah, t'en parles encore. C'est important. Ça nous est arrivé pour une chose, pour que nous comprenions quelque chose. Ils ne savaient pas qu'ils nous rendaient un service. Ils nous ont conduits à être davantage utiles dans l'œuvre de Dieu, mais ils ne le savaient pas. Il y a un philosophe qui s'appelle Nietzsche, qui a écrit « Tous les actes sont essentiellement inconnus ». Alors, si on ne comprend pas la valeur des mots, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Dans le mot « essentiel », il y a le mot « essence ». Il dit « Tous les actes sont essentiellement inconnus ». Dans le mot « essentiel », il y a le mot « essence ». L'essence, c'est la distinction de l'être. Ce n'est pas l'acte d'exister, ce n'est pas l'acte qui est. L'essence, c'est la distinction de l'être, c'est tout. Et c'est très important ce que dit Nietzsche, car l'essentiel des actes est vraiment inconnu. Écoutez bien, je vais vous donner un exemple qui est très net, très clair. La formule H2O exprime quoi? L'essence chimique de l'eau. Vous êtes d'accord? Là-bas, on sait, on a tous appris. Ça nous dit ce qu'est l'eau, H2O. Mais l'eau, ça peut être une grande étendue d'eau, ça peut être une petite quantité d'eau, ça peut avoir telle ou telle forme, une goutte, une flaque, un océan. L'eau, elle peut se vaporiser, se solidifier en glace, elle peut devenir gazeuse, elle peut demeurer liquide. Son essence demeure la même, c'est H2O. Maintenant, sa quantité, sa forme, qu'elle soit liquide, solide, gazeuse, tout ça, ce sont des accidents. On appelle ça, dans le terme scientifique, des accidents. On sait bien que l'eau sous forme de glace, c'est pas l'eau dans sa position normale, c'est un accident dû au froid. Et l'eau ne peut pas exister, elle ne peut pas être, sans avoir quelques-uns de ces accidents. Elle est, mais elle a des accidents. C'est pourquoi l'essence doit se distinguer de l'existence. Ce que les religieux ont fait, C'est une réalité. Mais l'existence de leur acte a pris des formes qu'ils ne pouvaient pas savoir, qu'ils ne pouvaient pas connaître. Vous voyez, vous me suivez ? C'est pourquoi Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Et Nietzsche, il reprend la chose à sa sauce, à sa façon. De même pour les religieux du château, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils croyaient savoir. Comme les religieux, ils étaient sûrs que Jésus était dans l'erreur, et les religieux du château étaient sûrs que nous étions, et surtout particulièrement moi, dans l'erreur, même possédés. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils croyaient savoir, mais ils ne faisaient que des actes qui étaient bien réels, dont l'essence leur a toujours été inconnue, et ça leur est toujours inconnu. Ils ne savent toujours pas. Ils ne savent toujours pas. Ce qui est bien réel dans ta vie, ce qui t'est arrivé là, Joseph, ce qui t'est bien arrivé, je parle à un de mes amis là, ce qui t'est bien arrivé à toi, là, qui m'écoute, écoute bien. C'est une chose, c'est un acte qui a été fait, mais que Dieu seul connaît. Dieu seul connaît les conséquences, les formes que ça va prendre. Et si tu aimes vraiment Dieu, tu sais, tu es comme Jésus, tu sais, parce que tu connais Dieu, tu sais que ça sera ton bénéfice pour toi. Le malheur qui t'arrive, Dieu le tournera en bien pour les siens. Voilà ce que Dieu nous dit. Et quand on connaît Dieu, on sait ce qu'il dit. Et fort de savoir ce qu'il dit, ben on regarde les choses d'une façon différente. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, il y a des moments où, dans la confusion quotidienne où on est, on prend le bien pour le mal. Depuis 2014, nous pensions que les dissidents nous avaient fait du mal. En fait, ils nous faisaient du bien. Ça faisait mal, mais ils nous faisaient du bien. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils nous faisaient du bien. Et on le voit très clairement aujourd'hui. Alors, a-t-on là un pouvoir humain de pardonner ? Oui, si on est des humains spirituels. Non, si on n'est pas des humains spirituels. Voyons un peu ça. En écoutant les prédicateurs, en écoutant, en étant à l'écoute de... On entend très souvent parler du pardon, mais ce sujet est presque toujours traité exclusivement sur la base du mal qu'on a subi. Faut que tu pardonnes, faut que tu pardonnes la gna, faut que tu la pardonnes, faut que tu le pardonnes, faut que tu les pardonnes, faut pardonner. Pourtant, la majorité des fidèles dans les églises ont un autre problème qui les conduit justement à ne pas pouvoir pardonner les autres. Ce problème, c'est que ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils se sentent coupables. Alors ils jugent les autres d'après eux-mêmes. Ils se sentent coupables. Jésus, lui, ne se sentait jamais coupable. Vous allez me dire, oui, mais c'était Dieu. Mais mon frère, ma sœur, tu oublies que le Saint-Esprit vient en toi. Que tu es pardonné, que tu es purifié, que tu es lavé, tu n'es pas coupable. Qu'est-ce que tu as à te sentir coupable ? Et la plupart des chrétiens agissent en permanence comme s'ils étaient coupables, comme s'ils devaient constamment se justifier. Mais pourquoi te justifier ? Jésus t'a déjà justifié. Oh, réveille-toi, secoue-toi. Il y en a qui se sentent même coupables de prendre des vacances. Il y en a qui... Ben je connais, hein. Il y en a qui se sentent coupables d'être malades. Un jour, j'étais dans une église et j'avais repéré qu'il y avait une dame sur une chaise roulante dans le fond. Et quand je me suis mis à prier pour les malades, il a commencé à y avoir des miracles. Et puis je cherchais cette femme dans la file, je me demandais, tiens, où est-ce qu'elle est? Et je me penche vers le pasteur et je dis, mais où est-ce qu'elle est cette femme en chaise roulante? Il me dit, oh, quand il y a un pasteur qui a des miracles, elle s'en va parce qu'elle elle a honte, elle se sent coupable d'être malade et jamais guérie. Alors elle s'en va. Alors moi j'ai quitté tout le monde, je suis sorti, j'ai été la chercher. Elle était assise par terre, toute honteuse. Je dis, alors maman, qu'est-ce que vous faites là? Puis elle me fait comme ça, avec les bras comme ça. Je dis, allez, au nom de Jésus, lève-toi. Je la prends par les deux mains, elle se lève. Mais en se levant, vous savez, il s'entortille avec des tissus. Le tissu est tombé par terre. Elle s'est retrouvée en culotte. Donc elle s'est baissée, elle a ramassé sa robe, elle s'est entortillée. Du coup, elle a réalisé qu'elle pouvait plier les jambes. Je dis, tu vois, maman, t'es guérie. Amen, elle me dit. Je dis, viens, allez, on rentre tous les deux dans l'église. Et on est rentrés tous les deux dans l'église, main dans la main. Elle marchait. Cette femme, pendant des années, se sentait coupable d'être malade. C'est terrible. Coupable d'être malade. Il y en a qui se sentent coupables d'être dépendants de un tel, de telle passion, de ceci, de cela, et même coupable d'occuper une place physiquement à côté de quelqu'un qu'ils jugent supérieur à eux, plus important qu'eux. En fait, c'était le cas des pharisiens, parce que quand Jésus rentrait dans le temple, tout le monde allait vers lui. Et puis eux, les pharisiens restaient comme des grosses bedoumes, là, tout seuls, peu bêtes, avec tout leur déguisement. Beaucoup souffrent d'une mauvaise conscience chronique. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne mérite pas l'estime qu'on me témoigne. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû dire ça. Et puis je ne m'apprécie pas tel que je suis. Je suis moche. Je suis bête. Et parfois, il y en a qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être aussi moche, aussi bête, aussi stupide? Et pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça? Il y a 2800 ans, il y a un bonhomme déjà qui parlait comme ça, c'était Job. Mais pourquoi, il disait à Dieu, mais pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je t'ai fait quoi pour que tu t'acharnes comme ça sur moi? Job, parfois, se sentait coupable du malheur qui lui arrivait, mais il ne comprenait pas, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi. Bon, il faut dire qu'il était tellement bien entouré de gentils chrétiens qu'il accusait sans arrêt, qu'il lui foutait des doutes, mais c'est ses chers amis, hein. Oh, mais Job, cherche bien, tu as sûrement des torts, Dieu est juste, hein. S'il t'envoie autant de malheur, c'est que tu y es pour quelque chose. Il y a des raisons à ça. Réfléchis, cherche. Alors Job, il ne reconnaissait plus son Dieu parce qu'il avait, toujours fait confiance à Dieu. Et il se sentait accusé maintenant par celui qu'il avait toujours cru juste. Et là, ce n'était pas juste. Il ne voyait pas qu'en fait, ça se passait en lui-même. Il était son propre accusateur, affaibli par la souffrance, affaibli par la douleur, affaibli par le deuil, affaibli par ses amis qui venaient lui en foutre plein la gueule, eh bien, il finissait par se sentir coupable. Et puis Dieu, il répond rien. Dieu ne dit rien. Ça vous est jamais arrivé, ça? C'est qu'au chapitre, il y a 47 chapitres dans le livre de Job, mais c'est qu'au chapitre 38 que Dieu daigne commencer à parler à Job. Vous voyez comment il est Dieu? Je dis, combien de fois vous m'avez entendu dire que Dieu est le Dieu de la dernière minute? Ah, quand même! Dieu lui parle. Mes frères et sœurs, là aussi on peut parler d'enfer, parce qu'enfin, rien ni personne ne peut entrer dans votre monde intérieur. Personne ne peut entrer dans mon monde intérieur. C'est pas possible. Même mon bon sens n'a aucune prise. Je sais qu'en jugeant les autres, je sais qu'en me jugeant moi-même, je déraille, je le sais. Je sais que je ne suis pas dans la vérité, dans la réalité. Mais ça ne change rien, mon bon sens ne change rien. Et l'issue de tout ça, bah, c'est l'enfer. Et puis, l'auto-justification, c'est aussi un enfer. Parce qu'on sait au fond de soi-même que ce n'est pas juste. L'auto-justification. On n'est pas justifié parce qu'on pense qu'on est juste, on est justifié parce que Dieu nous a justifiés. Toi, tu peux te sentir injuste, et tu as peut-être de bonnes raisons de croire que tu es injuste, mais Dieu t'a justifié. Alors arrête de dire que tu es injuste. Crois ce que Dieu dit. Et revoilà Job. Job, entre deux crises d'auto-accusation et d'auto-justification, tout d'un coup, il a un éclair de lucidité. Alors, il va déclarer une chose fracassante, on va lire ça dans Job, chapitre 9, verset 20. Je lis. Voilà ce qu'il dit. Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, Dieu me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je tiens pas à la vie. Il en a marre, Job, il en a marre, il en a marre, il en a marre. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, ou dans d'autres termes, j'en ai plus rien à foutre. Qu'importe après tout, et j'ose dire, Dieu détruit l'innocent comme le coupable. Voilà. Pas content, hein, le petit père. Et ça vous arrive jamais, ça? Et puis il continue de parler à lui-même et à Dieu, chapitre 10, verset 15. Écoutez-le. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère, et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion et tu me frappes encore par des prodiges. Tu me poses de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi. Il parle à Dieu, hein? Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu, je serais comme si je n'avais jamais existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Voilà, ça aurait été super. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi et qu'ils me laissent respirer un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres, de l'ombre, de la mort. Il dit à Dieu, laisse-moi respirer. Il en a marre, Job. Il en a ras-le-bol. Il en a marre. J'en ai eu marre. Qui n'en a jamais eu marre? Suis-je juste? Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Est-ce que c'est les gens qui parlent qui ont raison? Et puis Dieu, il dit rien. Oui, à sa parole, mais hein, je peux prendre un verset ou je peux prendre un autre. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Rien, il dit rien. Son silence, le silence de Dieu m'accable encore plus. Alors, à quoi bon vivre après tout? Vaut mieux crever. Mes frères et sœurs, tout ce mal-être vient du fait qu'on juge. Job ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas connaître ce qui s'était tramé dans le ciel au chapitre 1 du livre de Job. Il ne pouvait pas savoir que c'était un truc entre Satan et Dieu. Il ne pouvait pas savoir que c'était en quelque sorte un jeu. Mais quelle horreur! Ben oui, mais c'était comme ça. Moi non plus, je ne sais pas. Je ne connais pas. Toi non plus, tu ne connais pas. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi, Seigneur, mais pourquoi? La seule chose que je connais en tant qu'humain, c'est le bien et le mal. Quand on me fait du mal, ça fait bobo. Ça, je sais. Et cette connaissance du bien et du mal nous vient d'où? De l'arbre défendu du jardin d'Éden. Donc, ce n'est pas une bénédiction, cette connaissance du bien et du mal. C'est ça qui me rend malheureux. Je juge tout par rapport au bien et au mal. C'est ça qui me rend malheureux. C'est ça qui te rend malheureux. Tu penses qu'elle a fait ceci pour ton mal, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu penses qu'il t'a fait ça pour ton mal, mais qu'est-ce que t'en sais? Oh mon frère, ma sœur, le salut, la vie éternelle, la disparition de cet enfer, c'est de connaître non pas le bien et le mal, mais de connaître Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu ou connaître le bien et le mal. Voilà. Jésus, il échappe au jugement des pharisiens ce jour-là, parce qu'il connaissait son Père, parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue. Alors il n'a pas jugé selon le bien et le mal. Ni la femme adultère, ni les religieux, il les a laissés se juger eux-mêmes. Et il n'a pas jugé. Et c'est ce qu'il nous enseigne à faire. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Bénissez vos ennemis. Oui, mais... pour bénir nos ennemis, il faut bien savoir qui sont nos ennemis. Donc il faut bien connaître qui sont nos ennemis. Il faut donc bien juger qui sont nos ennemis. Non. Il suffit de regarder leurs fruits. Il suffit de regarder ce qu'ils produisent. Il suffit de voir l'amertume qui sort de leur bouche, les choses méchantes qui sortent de leur bouche, et de l'abondance du cœur que viennent toutes ces mauvaises choses. Le fruit, ce qu'ils produisent, pas eux, ce qu'ils produisent, très différent. En moi-même, je vois, on constate, comme on dit, le mal que nous font, que produisent les gens. Mais comme Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on baisse la tête vers la poussière et on refuse de jeter la pierre. Voilà, c'est tout. C'est pas facile humainement. Alors, on peut toujours dire, oh, c'est pas facile humainement. Eh, c'est facile si on est des humains spirituels. Si on laisse le Saint-Esprit nous conduire, c'est-à-dire si on se laisse conduire par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous éclaire, si on fait la volonté écrite de Dieu. Ah oui, la chair souffre, ça c'est vrai. De toute façon, elle sait qu'elle va crever. La chair, elle sait qu'elle va mourir, qu'elle va périr. Oui, et alors ? Nous avons une espérance bien plus grande que cet héritage humain sur cette pauvre vieille terre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas une autre espérance, vous n'avez que l'espérance de vous en sortir ici-bas sur terre, haut la tête, haut les cœurs, et que tout va bien? Non, on a une autre espérance quand même, non? L'apôtre dit, si nous ne croyons pas à la résurrection, nous sommes les plus malheureux de tous les gens de la terre. Et c'est vrai. Mais gloire à Dieu, nous connaissons notre Père Céleste. Nous baissons la tête dans la poussière et nous attendons son secours en silence. Nous parlons comme Jérémie, et je vais terminer là-dessus. Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Écoutez bien ce que Jérémie dit. Il se lamentait. Il était persécuté, toujours par des religieux. Jésus, il avait les siens, moi j'ai les miens, Jérémie avait les siens. Tout homme, tout chrétien, toute chrétienne a son petit paquet de religieux. Ça fait partie, n'est-ce pas, du pactage. Alors, Jérémie se lamentait. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Vous voyez, il faut... je veux repasser ça dans mon cœur. Je ne veux pas ressasser ces vieilles histoires. Je veux repasser des bonnes choses dans mon cœur. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Pourtant, il était dans le caca. il était dans les problèmes, il était persécuté, il était malheureux, mais il dit « Oh, que tes bontés sont grandes !» L'Éternel est mon partage, dit mon âme, mon maître. Voilà ce que mon être profond dit. L'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Je veux. C'est bien la preuve que s'il se le dit, c'est parce qu'il était sur le point de lâcher, vous comprenez? Il dit « je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Alors je veux espérer en lui. » L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Ah oui, tu trouves que c'est bon d'attendre? Moi, je déteste attendre. Eh bien, tu dois changer. Tu dois devenir un humain spirituel et tu dois pouvoir dire « Je veux commencer à dire, je veux commencer à confesser qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse et même dans sa vieillesse. Il se tiendra solitaire. » Et silencieux. Pourquoi? Parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, comme Jésus, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Tiens, vas-y, j'ai un courant, mais... Il présentera la joie à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. On me déshonore. J'adore. Déshonore-moi encore plus. Il se régalera de l'opprobre. Il se rassasiera d'opprobre. Il en prendra plus qu'il ne peut. Car le Seigneur ne rejette pas toujours... Mais lorsqu'il lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Mais c'est Dieu qui fait tout ça. Il se sert des religieuses, des nouilles, des charnels, des envieux, des orgueilleux, des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Dieu se sert d'eux. Mais il n'humilie pas, il n'afflige pas les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Toi qui m'écoutes là, ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui l'a ordonné. Ne discute pas. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Le mal et le bien et le mal. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est Dieu qui machine tout ça. De quoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est ce que Jésus a fait avec les pharisiens, avec la bonne femme adultère, et voilà. Il les renvoie à leur propre responsabilité. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen, 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 amen. Seigneur, je te prie que cette parole que j'ai dite ce matin, qui est un peu forte, j'emploie des termes durs, mais je fais exprès parce que je sais que ton peuple est devenu dur d'entendement et qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne savent plus où ils en sont, qu'ils sont troublés, qu'ils sont dans la confusion. Alors je te prie que mon message soit comme une bombe dans leur vie et qu'ils réalisent, Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. Je n'ai rien à craindre. Je vais simplement attendre en silence le secours de l'Éternel. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Au revoir.